Vous écoutez France Culture.
Ce qui est certain, c'est que pour moi, le théâtre c'est associé à la beauté des textes.
Je crois que nous sommes dans un monde plus kafkaïen, chacun.
Bonjour à tous et bienvenue à la Grande Table, une grande table en direct et en public de la cour du Musée Calvet à Avignon dans le cadre de ces 24 heures de France Culture. Une grande table mitonnée aujourd'hui par Raphaël Bourgois, Aude Tortuglio, Mathilde Unger et Ségolène Darny, réalisée par Perret Legras. Au programme de nos deux parties jusqu'à 13h30, dans un instant, conversation en compagnie de nos trois complices du jour, trois membres de la petite bande qui sont des metteurs en scène et qui ont donc fait le voyage jusqu'en Avignon, Stanislas Nordet, Myriam Marzouki et Christian Benedetti. Avec eux, nous parlerons de politique culturelle, des modes de production du spectacle vivant aujourd'hui, un débat hautement avignonnais. Puis, en deuxième partie, place aux artistes du festival. Nous accueillerons successivement le chorégraphe Joseph Nadj, qui présente un très beau spectacle à Saz, un voyage dans l'imaginaire, dans les gravures de Dürer et la poésie de Celone, à travers un duo d'1h15 dans une petite boîte de 4 mètres sur 3. Et puis le deuxième sera Jérôme Bell, qui propose lui une pièce audacieuse, risquée mais passionnante, avec des acteurs professionnels atteints de trisomie 21. Ça sera tout à l'heure à partir de 12h55.
Sense of sound, right? Now you know how we play. We're going to give you certain sounds to identify, and now.
Stanislas Nordet, Myriam Marzouki et Christian Benedetti sont donc assis autour de cette table. Bonjour à tous les trois et bienvenue.
Bonjour.
C'est un article en fait qui nous a servi de point de départ pour cette conversation de première partie. Un article publié récemment sur un blog, sur le site de Rue 89, signé Jean-Pierre Thibaudat. C'est une lettre ouverte au théâtre français, entre parenthèses, et à la gauche au pouvoir. Voilà le titre de cet article, enfin de ce billet de blog qui a été publié le 2 juillet dernier. Stanislas Nordet, c'est cet article-là qui vous a donné envie de cette conversation aujourd'hui.
Absolument. Alors, avant toute chose, peut-être recontextualiser l'article. L'auteur de l'article, c'est Jean-Pierre Thibaudat, qui, on va dire, pose une espèce de pavé dans la mare à l'ouverture du Festival d'Avignon, qui nous réinterroge, nous les artistes, sur notre responsabilité aujourd'hui dans le mouvement de la création théâtrale et des modes de production, mais qui interroge aussi le pouvoir en place, le nouveau pouvoir en place. Il n'y a pas de hasard, évidemment. Il démarre son article, d'ailleurs, en posant que dans ce contexte où très probablement il n'y aura pas de hausse budgétaire massive comme il y a eu en 1980 à l'arrivée de la gauche en pouvoir avec Jack Lang qui arrivait et qui pouvait impulser un certain nombre de mouvements. Comme cet argent-là ne sera pas là, en tout cas, la pensée est possible. On peut repenser complètement les modes d'un fonctionnement qui aujourd'hui pose vraiment question. On est un certain nombre à le penser. À la fois les modes de production, les modes de diffusion. Comment est-ce que les artistes sont impliqués ou pas dans la gestion des lieux de théâtre aujourd'hui et plus largement des lieux de spectacle vivant. Et il pose un certain nombre de questions véritablement passionnante. Il nomme un certain nombre d'impasses et il nous invite d'une certaine manière, nous les artistes et eux les politiques, à retrousser les manches d'une certaine manière. Il le fait avec courage, il l'a toujours fait, c'est important. C'est quelqu'un qui, au moment où il travaillait à Libération il y a 20 ans, avait initié une série de textes qui s'appelait « Où va le théâtre ?» et qui étaient des textes passionnants, qui avaient été à l'époque écrits par Didier-Georges Gabilly, Jean Jourdeuil, Georges Lavaudan, Éric Lagascade et j'en passe, et qui déjà interrogeaient la question de faire du théâtre, oui, mais comment, mais où, posant à la fois la question des moyens, mais aussi la question de quoi ont besoin les artistes aujourd'hui pour produire des œuvres de grande qualité. Et finalement, il pointe une espèce de risque, un sommeil dans lequel nous serions tous un petit peu... On serait responsables de ce sommeil-là. Et moi, ce que j'aime dans cet article, c'est qu'il a des qualités très fortes d'interpellation. En même temps, il a des défauts, je dirais, il nomme un petit peu trop, c'est la faiblesse, je dirais, de l'article. C'est-à-dire, tout d'un coup, il va nommer un certain nombre de gens qui va porter en exemple, et puis d'autres qui va un petit peu assommer avec son bâton de gendarme. Mais cet article a le mérite d'exister. Et surtout, moi, je dirais ce qui ressort le plus pour moi, c'est l'idée phare que l'institution ne doit pas préexister par rapport à l'artiste. C'est-à-dire, il repart de la question de la décentralisation théâtrale. En 1946, au moment où tous ces gens sont partis de Paris pour aller en province, que ce soit les Dasté, que ce soit les Gignou, que ce soit toute cette bande-là, ils sont partis créer des outils à leur image, d'une certaine manière, des outils dont ils avaient besoin pour à la fois parler à de nouveaux publics et aussi pour créer leurs objets artistiques. Et aujourd'hui, on est face à un certain nombre d'outils institutionnels, les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, les scènes nationales, qui sont des outils qui préexistent et qui ne sont pas toujours taillés pour les nouvelles formes artistiques qui émergent. Et je vais prendre deux exemples juste très simples de deux jeunes artistes qui, par exemple, pour moi, sont dans le théâtre des gens importants aujourd'hui, Sylvain Creusevaux ou Vincent Macaigne, qui était au Festival d'Avignon l'année dernière. Et on a plutôt envie de dire, et moi j'ai envie de dire, et c'est ce que dit Thibaudin, de quels outils ces artistes-là aujourd'hui ont besoin pour créer de grandes œuvres, plutôt que de se dire à l'inverse, voilà, il y a des outils qui sont existants, vous artistes, débrouillez-vous, démerdez-vous avec ça, même si ça ne vous convient pas. Et je pense que c'est ce qui pose avant toute chose et qui est le plus intéressant dans l'article.
Alors, les modes de production, les modes de diffusion, la place des artistes aujourd'hui dans les institutions culturelles, en particulier les institutions théâtrales, et aussi le rôle de l'État. Myriam Marzouki.
Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Stanislas. C'est un texte qui a le mérite de mettre les pieds dans le plat et de commencer effectivement en rappelant qu'en 1980, il y a eu une sorte d'arrivée, une manne d'argent qui a peut-être aussi endormi tout le milieu et qu'effectivement aujourd'hui on n'en est plus là, mais que d'une certaine manière, il évacue tout de suite la réclamation légitime de moyens sans moyens. Nous ne pouvons pas créer, mais il va d'emblée dans le cœur de ce que doit être une politique culturelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement une question de moyens, elle est d'abord une question de vision. Et moi, j'ai relevé un extrait du texte de Jean-Pierre Thibaudat où il dit « On ne peut plus, au début du XXIe siècle, s'abriter éternellement derrière Villars comme un alibi, ni derrière Malraux comme un prophète. » Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, il s'agit de considérer que nous sommes dans un monde qui a radicalement muté et que, par conséquent, la question est de la décentralisation et de la démocratisation culturelle et de la relation entre art et pouvoir doit être repensée sur des bases qui ne sont pas celles de l'immédiate après-guerre. Parmi tous les points qui sont pointés par Jean-Pierre Thibaudat, il y en a un sur lequel je veux bien commencer à intervenir, c'est la question de la diffusion. Il fait observer, peut-être que certains spectateurs y sont sensibles et d'autres peut-être non, puisque au fond, quand on va voir un spectacle, on va le voir une fois. Mais quand on est en compagnie, quand on est metteur en scène, quand on est producteur d'une œuvre, on sait bien à quel point il y a quelque chose qui est de plus en plus à la fois absurde économiquement et très douloureux artistiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux spectacles qui sont produits, créés, soutenus par l'État et par les collectivités et qui finalement ont une durée de vie extrêmement brève, c'est-à-dire des spectacles qui sont joués 4, 10 fois, moins de 20 fois. Ça, c'est la première chose qu'il observe. Et la deuxième, c'est que, et ce deuxième phénomène est lié au premier, c'est que quand on regarde effectivement les plaquettes de saison et celles qui nous arrivent là pour la saison 12-13, on voit que finalement en France, ce sont un petit nombre de spectacles, finalement les mêmes, qui se promènent un petit peu partout en France. Donc ce qui se pose aujourd'hui, c'est un phénomène d'engorgement et d'absurdité économique, c'est-à-dire qu'on produit des œuvres et après elles ne sont pas diffusées, ce qui est une question très compliquée pour les artistes et pour les équipes. Et moi, il me semble que derrière ça, il y a une réflexion qui devrait être menée sur, au fond, le productivisme qui nous concerne aussi, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous parle, on en a déjà ici à la grande table parlé, de décroissance. Aujourd'hui, on nous dit que peut-être la production automobile va cesser parce qu'on achète aussi moins de voitures. La question, c'est de savoir si, finalement, il faut continuer dans une sorte d'incitation à la création à fabriquer autant de spectacles pour qu'ils soient aussi peu joués. Et derrière ça, et c'est intéressant dans le papier de Thibaudat, finalement, on tire des fils. Parce que, finalement, les équipes, elles sont soutenues pour créer. Elles sont financées parce qu'elles ont des projets. Donc, si on mettait plus d'argent, on ferait encore plus de spectacles, ils tourneraient encore moins. Or, la question, c'est de savoir si finalement un artiste n'existe qu'en tant que créateur. Est-ce qu'il n'y a pas tout ce temps invisible qui est un temps de création, qui est le temps de la recherche, qui est le temps de la transmission, qui est le temps de l'écriture, qui est le temps d'élaboration collective et qui pourrait aussi aller vers finalement des temps de visibilité qui soient moins nombreux, mais qui permettraient vraiment de chercher. Et ça pose aussi la question de la redéfinition de ce qu'est un artiste. Est-ce qu'un artiste, c'est seulement celui qui est là lorsqu'il présente une œuvre, hein, ou est-ce que c'est celui qui est au travail, en recherche, en écriture, en processus de création ? L'État et les collectivités ont du mal à soutenir ce temps de travail invisible. Ils veulent soutenir de la visibilité.
Productivisme, a dit Myriam Marzouki. Christian Benedetti.
Oui, comment dire, productivisme, oui et non. C'est-à-dire que comme le texte pose aussi la question de qu'est-ce que nous avons fait avec les outils dont nous disposions et qu'est-ce que ces outils sont devenus ? Est-ce qu'ils sont devenus... Est-ce qu'ils restent des outils d'accompagnement ou est-ce qu'ils deviennent des outils d'empêchement ? Et ce que disait Stanislas est absolument juste. Comment peut-on demander à des gens aussi différents que Macaigne ou Sylvain Creusevaux d'utiliser le même outil pour des projets qui sont diamétralement opposés ?
Quand vous dites outils,
scène nationale, centres dramatiques nationaux, comment on peut mettre... Didier Besas et Pascal Rambert avec le même cahier des charges, c'est-à-dire les mêmes obligations pour deux projets, deux personnes qui sont diamétralement opposées.
Sur des territoires différents.
Je pense que Thibaudat, finalement, nous met devant cette question et oblige l'État à réfléchir au fait qu'une politique culturelle ne pourra se mesurer qu'à la capacité de l'État et des collectivités territoriales et locales à accompagner singulièrement des projets spécifiques. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de cases préétablies, il n'y a, comme disait Stanislas, l'institution ne peut pas être existée de façon... ne peut pas être préexistée par rapport à l'artiste. L'artiste doit être premier et l'État doit faire en sorte de tout faire pour trouver les moyens de l'accompagner, mais pas l'inverse. C'est pas à l'artiste à trouver les moyens de s'adapter aux outils qu'il a. On a construit, on continue, d'ailleurs Thibaudat le dit, on continue à construire des cathédrales, des espèces d'immenses théâtres. Moi qui travaille beaucoup avec Bond, chaque fois il me dit, on dirait des funérariums ou des centres de tri pour la déportation, parce qu'on a l'impression que ça ne sert à rien, c'est mille fois trop grand, ça ne correspond pas tout à fait... Ça ne correspond plus au spectacle que l'on monte. Et on travaille encore avec des outils du 19e siècle. Il n'y a pas d'outils spécifiques créés. Ce sont juste des lieux qu'on a adaptés, des friches, des espaces périphériques. Comment... Donc ça pose toute cette question. Et le productivisme dont parlait Myriam, il y a aussi le fait que les scènes nationales, quand, la plupart du temps, quand on voit les plaquettes, ce n'est plus des plaquettes, c'est des catalogues IKEA où... Il y a 60 propositions par an. Donc, il y a un productivisme obligé aussi par les collectivités locales, parce qu'il faut que la scène nationale, ça en jette un peu, etc. Sauf que du coup, les compagnies sont accueillies une fois. Ce qui rend mécaniquement impossible la reprise des spectacles, parce que si on crée un spectacle et qu'on a 5 directeurs de scène nationale qui viennent et qui disent « Je vous prends une représentation », en général, c'est la saison d'après. Donc, mais ensuite, on ne reprend pas un spectacle pour 5 fois, avec le prix que ça coûte. C'est impossible. Donc, la charte des compagnies qu'a créé le Syndéac, enfin, qu'a suggéré et a initié une partie des compagnies du Syndéac et que le Syndéac a accepté, qui imposerait à l'État un travail de régulation, qui serait son normal, puisque dans scène nationale, il y a national, d'obliger... les scènes nationales à prendre au moins 3 représentations. Ce qui fait que s'il y en a 5, ça ferait 15 représentations pour les compagnies. Là, ça se discute autrement.
Stanislas Nordet.
Alors après, il faut pointer une grande, grande responsabilité d'un abandon de la part de l'État, on va dire, sur les 8 dernières années, d'une pensée. Hein, c'est-à-dire, pour prendre un exemple tout simple, dans le précédent gouvernement, il y a un fonctionnaire du ministère de la Culture, il en parle, Thibaudat, dans l'article, qui a convoqué Claude Régis, qui est quand même un homme de théâtre qui est incontestable, pour lui demander de prendre sa retraite. Donc, c'est qu'on est dans cet endroit-là. Il y a eu un abandon total d'une pensée. Il y a eu beaucoup de clientélisme. Et là, je pense que la harangue de Thibaudat, elle correspond peut-être aussi aux premières prises de parole d'Aurélie Philippetti, qui a parler à nouveau, et ça je trouve que c'est très bien, de l'importance du rôle régalien de l'État dans la culture, c'est-à-dire d'une vraie responsabilité, une responsabilité donc pas seulement financière, mais une responsabilité de pensée. Et moi, ça me fait du bien qu'au sommet de l'État, on dise qu'il faille penser le mouvement de la culture. Après, il faut voir ce qui va se passer dans les actes. Mais en tout cas, pour reprendre ce qui s'est passé en 81, au-delà de l'afflux d'argent, qui était une bonne chose aussi, il y avait aussi une pensée. C'est-à-dire que, par exemple, les artistes étaient mis au devant de la scène. Patrice Chéreau, on lui créait un outil sur mesure qui était Nanterre Amandier, parce que c'était l'outil dont il avait besoin pour créer de grandes œuvres. Alors, on a souvent glosé et moqué l'artiste tout-puissant, l'artiste prince, mais à mon avis, à tort, parce qu'il y a mille manières. Au même moment, François Tanguy, le Théâtre du Radeau, était dans investissait une friche avec beaucoup moins d'argent, mais tout d'un coup était dans un lieu qui leur correspondait. Et je crois qu'aujourd'hui, une des missions de l'État pourrait être de remettre les artistes autour de la table, véritablement, et les artistes, parce que sous la précédente mandature, il y a eu ce qu'on a appelé les entretiens de Valois, mais qui réunissaient au ministère de la Culture très peu d'artistes, finalement, quantitativement. Et faut pas oublier ça, c'est-à-dire que l'espèce d'âge d'or du théâtre dont on parle beaucoup, c'est aussi parce que Chéreau, parce que Vitesse, parce que Brooke, parce que Mnouchkine, parce que Tanguy réussissaient à avoir des lieux à leur mesure et à des mesures très différentes en fonction du geste artistique qui est le leur, qui est très différent. C'est pas seulement une question de gigantisme de moyens, c'est une question de demander aux artistes ce dont ils ont besoin pour être au plus haut.
Mais pourquoi tout attendre de l'État à nouveau ? Est-ce que ce n'est pas aux artistes, à vous-même, collectivement, de réfléchir ensemble à la place qui vous est dévolue, que ce soit au sein des CDN, des Centres Dramatiques Nationaux, que ce soit au sein des institutions dont vous parlez aujourd'hui, Myriam Marzouki ?
Moi, je voulais revenir sur ce que Stanislas et Christian ont dit en parlant beaucoup de la question de l'artiste qui, effectivement, est au cœur du papier de Jean-Pierre Thibaudat. En même temps, son article n'est pas du tout seulement une apologie de l'artiste comme ayant naturellement une aspiration à diriger un lieu, puisqu'il dit aussi à plusieurs endroits que, au fond, ce qui importe, ce n'est pas tant d'être artiste ou pas artiste, parce qu'il y a des échecs artistiques et politiques dans des lieux qui ont été dirigés par des artistes et des réussites de lieux qui ont été dirigés par des personnels administratifs et inversement. Donc finalement, il propose aussi plutôt, et ça rejoint ce que mes deux camarades viennent de dire, que ce qui compte finalement, c'est la singularité d'un projet qui s'adapte à un lieu, qui correspond à un territoire, et que la personne porteuse du projet soit un artiste ou ne soit pas un artiste, ou éventuellement un tandem avec un artiste fortement associé à un lieu, mais que le lieu soit peut-être structurellement dirigé par quelqu'un qui n'en est pas un, serait une piste. Moi, je voulais peut-être revenir sur quelque chose qui me tient à cœur et qui va dans le sens de ce diagnostic que fait Jean-Pierre Thibaudat d'un État qui, finalement, dans tous les points qu'il énonce, est au fond un État de sclérose ou d'atonie. Enfin, il reproche à beaucoup de lieux d'être devenus des lieux froids, vides, et inversement, il souligne la vitalité de certains lieux, y compris des lieux modestes.
Et ça, vous partagez son avis ?
Oui, je le partage. Après, je pense que là où les choses sont compliquées, et c'est effectivement lorsqu'il nomme des individus et des lieux, la question c'est, on peut très bien avoir des diagnostics partagés, mais une fois qu'on nomme les gens, on n'est peut-être pas d'accord sur les noms. En revanche, il y a une chose que je voulais dire, c'est que dans ce diagnostic qu'il fait sur quelque chose qui, en termes de procédure, de structure, témoigne à la fois d'un déficit démocratique et de quelque chose qui ne va pas vers là où cela doit aller, c'est-à-dire vers le public, c'est quand même l'absence totale de réflexion pendant ces dernières années et qui commence à émerger sur la question de la sous-représentation scandaleuse et inadmissible des femmes, aussi bien en tant qu'artiste que en tant que metteur en scène, que en tant que personnel non artiste dirigeant des lieux, et qui est un phénomène qui, je pense, est tout simplement révélateur d'un dysfonctionnement général. C'est-à-dire que quand on aborde cette question de la sous-représentation cruelle, hein, moi j'ai quelques chiffres là sous les yeux, 9% des centres dramatiques nationaux sont dirigés par des femmes, 4% des maisons d'opéra sont dirigées par des femmes, 18% des postes dirigeants de l'administration culturelles sont occupées par des femmes, 15% des textes joués écrits joués sont écrits par des femmes, 25% des spectacles sont mis en scène par des femmes. Donc on voit que Aurélie Filippetti a aussi décidé de s'emparer de cette question. Et je pense que cette question de la sous-représentation scandaleuse des femmes à la tête des institutions en tant qu'artiste va de pair avec une problématique plus large qui est celle de la démocratisation culturelle. Et de ce point de vue-là, quelque chose qui n'est pas abordé dans le texte, mais je pense que Thibaudat ne pouvait évidemment pas tout dire, c'est que nous avons besoin de repenser le rapport entre le travail de l'artiste et le public, et qui inclut du coup de façon plus démocratique la société française tout entière.
Christian Benedetti.
Oui, je vais répondre à ta question, puisque tu disais pourquoi vous attendez tout de l'État, etc. On n'attend pas tout de l'État, simplement, et l'article, et ce qu'on vient de dire, démontre que les artistes, en tout cas ceux qui proposent des actes de création, interrogent l'État. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui les modes de production ont changé, et que l'outil de l'institution, la plupart du temps, n'est pas capable de répondre à ce changement et n'est plus capable d'accompagner véritablement des projets, parce que les temps de production qui n'appartiennent qu'aux porteurs du projet se modifient. Ça peut être un mois, ça peut être six mois, ça peut être une semaine. Et seulement, il faut être à l'heure pour les plaquettes, il faut dire le titre six mois avant, etc. Donc ça ne peut plus... Ça bouleverse complètement l'ordre donné et l'ordre établi de l'institution. Et l'institution ne peut plus se mettre autour d'un artiste, comme on peut se mettre autour d'un peintre, pour que son projet puisse voir le jour. Donc c'est des questions que les artistes posent à l'outil, posent à l'État. Et moi, par exemple, chaque fois que je vais au ministère, et je disais ça à Stan tout à l'heure, je pose la question, pourquoi me donnez-vous de l'argent? Quel est le sens? Ben, j'ai toujours pas de réponse.
Stanislas.
Un autre exemple intéressant des propositions des artistes, parce qu'on réfléchit beaucoup ensemble, on a beaucoup de propositions, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de collectifs d'artistes, beaucoup de coopératives d'artistes, et qu'en face de ça, en face de ces propositions-là, la plupart du temps, l'État et les collectivités sont démunis devant la difficulté de penser nommer à la tête d'une institution plusieurs artistes. Parce que, par exemple, il y a certaines très grosses institutions, nous pensons qu'elles ne peuvent aujourd'hui pas être dirigées par un seul artiste, parce que c'est trop, elles sont trop lourdes. Et que par contre, des collectifs d'artistes peuvent être absolument passionnants à inventer.
Ou un tandem directeur administratif, ou des tandems, artistes, par exemple.
Voilà. Mais la question, elle est que sur les dernières années, il était très très difficile d'avoir des interlocuteurs sur ces questions-là. Et qu'aujourd'hui, il faut, et je pense que c'est le sens de l'article de Thibaudat...
C'est la forme d'une lettre ouverte, hein, d'ailleurs.
C'est une lettre ouverte au théâtre français et à la gauche au pouvoir, et ça dit bien ce que ça dit, c'est-à-dire, ça dit mettez-vous tous au travail, ensemble, et pas de manière séparée, parce qu'au moins, peut-être, là, il peut y avoir une volonté de dialogue et des choses qui avancent. Et sur cette question des collectifs, je pense que c'est très important parce que aujourd'hui, il y a comme ça cette et c'est très beau, je trouve. Il y a un mouvement très fort et on parlait tout à l'heure de Creusevaux, c'en est l'exemple, mais il y en a d'autres. Et cette question des coopératives d'artistes, à la fois pour mutualiser des moyens, pour mutualiser des forces, etc. Ce sont des questions passionnantes.
En même temps, ça réglera peut-être pas la question posée par Christian Benedetti tout à l'heure, à savoir du manque d'adaptation aujourd'hui des lieux existants au mode de production ou de proposition de création des artistes, premier point. Et le deuxième point que soulevait aussi Myriam, qui est la question du temps. C'est pas parce que vous allez vous mettre ensemble ou que vous allez réfléchir ensemble avec les politiques, les responsables politiques aujourd'hui, que vous allez régler ces histoires de structure ou de temps.
Non, mais c'est pour ça que le ministère doit et les autres collectivités, si elles prétendent accompagner des artistes, elles doivent faire en sorte d'être au plus près de ce qui est de leurs besoins. Et donc, elles doivent trouver un accompagnement spécifique. C'est du travail, ça ne rentre pas dans les cadres, mais on ne peut pas obliger tous les peintres du monde à peindre des miniatures ou à peindre des fresques murales.
Il nous reste juste quelques minutes pour prendre des exemples précis. Qu'est-ce que vous attendriez, vous, précisément, concrètement, par rapport à ces lieux, par rapport à vos demandes? Quelles seraient une ou deux formulations que vous aimeriez faire aux responsables politiques actuels, Stanislas Nordet?
Par exemple, je pense qu'une des premières choses, ça serait de repenser véritablement la notion de territoire. Aujourd'hui, dans les modes de nomination, on nomme de la même manière quelqu'un dans le centre d'une grande ville ou dans une banlieue, par exemple. Et le travail sur les publics, parce qu'on n'a pas encore parlé des publics, mais ça, c'est très important, n'est évidemment pas du tout le même si on est au centre-ville de Rennes ou si on est à Gennevilliers. Et là, à cet endroit-là, je crois que la question des territoires, et notamment, moi, je milite pour ça, d'un deuxième acte très fort de la décentralisation théâtrale qui est sorti d'abord en 1946 de Paris pour aller à Strasbourg, à Rennes, etc., et qui aujourd'hui, à mon sens, devrait aller dans tous les territoires abandonnés. Et là, moi, je dis que, de la même manière qu'on a mis une priorité au gouvernement sur le budget de l'éducation, il faudrait ajouter culture. Éducation et culture, l'un et l'autre sont indissociables. Tout le monde le sait, tous les gens qui travaillent d'ailleurs et dans l'éducation et dans la culture le savent. Donc cette question déjà de réidentifier aussi sur quel territoire on travaille et de ne pas nommer indifféremment quelqu'un dans le centre d'une grande ville à tel endroit de la France ou à tel autre est une chose par exemple fondamentale.
Myriam Marzocchi.
Oui, moi je pense que la question de l'éducation artistique va être dans les années à venir, pour des raisons presque de survie de nos activités de création et pour redonner du sens. C'est-à-dire qu'on est clairement à la fin aussi d'une époque où on sait bien que le public de très nombreuses scènes nationales, CDN et internationaux, est le public de la décentralisation, c'est-à-dire un public qui a pris les habitudes de spectateurs dans un monde qui n'est plus le même et qu'aujourd'hui, eh bien, la conquête, l'invention, le travail avec des publics qui aujourd'hui sont des adolescents et qui peut-être demain ne seront pas des spectateurs de lieux de spectacle vivants si on ne travaille pas avec eux, non pas dans une logique qui serait celle de l'édification en considérant que le spectacle vivant est le seul, mais à penser qu'aujourd'hui, venir au théâtre, c'est venir au théâtre avec tellement d'autres choses à faire, ça doit se passer dans une relation absolument fondamentale entre les enseignants, les artistes, le milieu de la culture, l'éducation. Et je pense, pour juste finir très rapidement, ce qui serait à attendre aussi d'une vraie politique de l'État, ce serait d'arrêter d'être dans une évaluation purement quantitative avec cette question du taux de remplissage et de considérer que si on est dans une évaluation fine des pratiques, des projets, des œuvres et des relations avec le public, se dire que quand on travaille dans une petite ville, Jean-Pierre Thibaudat parle de Stein, qu'on a un atelier d'écriture et qu'on est 15, eh bien ce travail avec 15 spectateurs, il est fondamental, il faut le sauver.
Christian Benedetti.
Je pense qu'il faut que l'État repense l'arborescence de tout le contexte qui est mis en place, qu'il soit véritablement à l'écoute des artistes et, comme dit Tchekhov dans Les Trois Sœurs, tenez, il neige, où est le sens ?
Une lettre ouverte au Théâtre français et à la gauche au pouvoir, reprise donc par quelques-uns des artistes qui sont ici présents à Avignon. Peut-être la discussion va-t-elle se poursuivre entre vous, en tous les cas, et puis profiter de la présence aujourd'hui à Avignon d'Aurélie Filippetti, peut-être pour l'interpeller à votre tour. Merci beaucoup à tous les trois, Stanislas Nordet, Myriam Marzocchi et Christian Benedetti. La grande table continue après le journal. On se retrouve à 12h55. Nous serons en compagnie de deux des artistes de ce festival en ce moment même, Joseph Nadj et Jérôme Bell, mais pour l'heure, il est 12h30 sur France Culture et on retrouve tout de suite à Paris les informations avec Antoine Mercier.